André, tu vas évoquer la poésie visuelle, une esthétique anarchiste. Donc quand on lit le titre comme ça, on dit ça va voler très haut. En fait, ça vole bien, mais pas si haut que ça.
On ne sait pas si ça va voler haut. Bonne tarde à tout homme. Merci au groupe La Commune d'avoir organisé cette rencontre, ce colloque. Ça ne me rajeunit pas, puisque jadis, en 91, j'avais organisé un colloque pour les 10 ans de Radio Libertaire, et qui avait permis notamment un certain nombre de faits à l'époque d'être évoqués. Comment on arrive à parler de la poésie visuelle, une esthétique anarchiste? Ben, tout ça, c'est un déroulement, un engagement de tous les jours, je dirais, vraiment vivre ça pleinement. Tout d'abord autour d'émissions à Radio Libertaire, ensuite autour de revues, autour de Art et Anarchie. Hormis le colloque de 91, il y a eu cette revue qui s'appelait Anartiste, dont, par exemple, vous avez le visuel qui est là. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est un dessin, une illustration des chapelets qui avait été faite en soutien à la revue, donc une vente de soutien pour laquelle les chapelets s'étaient engagés. Ensuite, ce visuel a été utilisé par Radio Libertaire. Et bien, c'est très bien qu'il soit là, il a sa place ici. Donc, après Anartiste, il y a eu la revue Art et Anarchie, qui a duré 5 ans, et qui essayait de brasser toutes les esthétiques anarchistes. C'était un peu prétentieux, et donc, et plus ça allait, plus j'ai diminué mes prétentions. Ensuite, je me suis intéressé à deux esthétiques anarchistes, l'art postal, le mail art et la poésie visuelle. Et maintenant, je m'intéresse qu'à une qui est la poésie visuelle. Donc, depuis un certain nombre d'années, donc depuis 7 ans, je fais une biennale de poésie visuelle et c'est en ça que je veux en venir après avoir brassé un certain nombre d'esthétiques que j'aborderai rapidement. Un certain nombre d'entre elles ont été traitées, donc soit l'impressionnisme qui ont été traités au travers de l'intervention autour d'Élysée Reclus. Le surréalisme va être abordé ce soir en conclusion de ce colloque. Et le cinéma a été traité en milieu d'après-midi. Donc, si on garde tout ça. Mais le problème, c'est ce qui se passe entre toute production artistique et le pouvoir institutionnel ou le pouvoir artistique. Toutes les avant-gardes artistiques qui se sont revendiquées de l'anarchisme ont été avalées, digérées par le pouvoir. Que ce soit l'impressionnisme, le futurisme, le dadaïsme, l'arte povera, le lettrisme, ou le land art et bien d'autres. La dernière née, je veux dire, qui est le street art, qui est né quand même dans la rue, est aussi aujourd'hui digéré par le système. Aujourd'hui, les artistes de street art sont vendus en galerie comme les autres artistes. Donc, il y a aussi un certain nombre de festivals qui sont autour de cette pratique. Et même Guy Debord, qui était soi-disant, je dirais, réfractaire aux institutions, avait tout préparé avant sa mort, et une rétrospective a eu lieu à sa mort à la BNF. Il avait tout préparé. Et la pire des choses est l'exposition qui a lieu en ce moment autour de l'Arte Povera, qui, quand on sait d'où elle vient, je veux dire, était une espèce de pied de nez, je veux dire, à la création artistique, puisque ça se passe à la Fondation Pinault. Voilà. Alors, comment définir une esthétique anarchiste? Comment on peut être pédant ou en dire ça relève de l'esthétique anarchiste ou pas? Est-ce qu'il suffit qu'il y ait un drapeau noir ou un cerclé ou un drapeau de la CNT pour dire que cela relève de l'anarchisme, de l'esthétique anarchiste? Pour moi, ce n'est pas suffisant. Il faut que, effectivement, l'œuvre ou le comportement de l'artiste parte de ce postulat. Si par exemple, il y a une intervention tout à l'heure sur notre compagne Nelly Trumel, et elle a une œuvre qui s'appelle « Ça germe ». Cette œuvre, a priori, c'est des pommes de terre qui germent. Ça peut laisser penser, je dirais, une peinture naturaliste. Mais quand on connaissait la personne, je veux dire que moi qui ai eu la chance de travailler avec elle au secrétariat de Radio Libertaire, et quand on la connaissait, on savait de quoi elle parlait, puisque c'était son engagement militant qu'elle mettait dans cette peinture, vraiment. Au-delà de cet exemple de cette campagne de la Fédération anarchiste, je donnerai quelques exemples historiques. Les ready-made de Marcel Duchamp, qui est la première remise en cause capitale de l'œuvre et de son statut, est très importante, avec le nu descendant l'escalier numéro 2 de 1912, en passant par LHOQ de 1919. Avec ces deux œuvres, il participe à la désacralisation de l'œuvre en tant que telle et en créant une série de ready-made. Lui-même ne se définissait pas comme artiste, et le vocable d'anartiste vient de lui. C'est lui qui a créé ce vocable en disant « je ne suis pas un artiste, je suis un anartiste », et il remettait en cause effectivement la posture de l'artiste dans le marché. Le happening, lui, qui est aussi un acte anarchiste, participe de cette remise en cause. La désacralisation de l'œuvre est une volonté de toucher un public avec une autre difficulté à vendre cette production artistique. Comment on peut vendre un happening? Tout ça est compliqué. Il y a cette dépendance, je veux dire, financière, je veux dire, des institutions, et en même temps, il y a cette implication anarchiste qui fait que le rapport reste très complexe. Mais ça fait partie des esthétiques anarchistes. On peut parler d'une compagne qui s'appelle Esther Ferrer, qui doit avoir, elle est toute jeune, hein, elle a 80 ans, et c'est une performeuse féministe et anarchiste. Elle est née en 37 au Pays Basque, et elle donne comme définition de son travail: si je peux trouver des matériaux pour faire des choses, je les prends. Si je ne les trouve pas, je fais avec mon corps. Et donc cette femme de 80 ans fait encore des performances nues aujourd'hui, je veux dire, et elle n'a pas honte de ce rapport du corps, notamment, je veux dire, elle a fait tout un travail sur l'origine du monde de Courbet et le parallèle avec le sexe masculin, et elle a tout un travail sur effectivement cette représentation qui est un peu, je dirais, traité de manière édulcorée. Mais ce rapport au corps et ce rapport de la représentation du corps, elle est très très importante dans toutes les esthétiques de tous ceux qui travaillent sur cette esthétique anarchiste. Parce que qu'est-ce qu'il y a de matière première, c'est bien notre corps à nous, hein, artistes. C'est pas éventuellement il y a celui des autres, mais il y a d'abord le nôtre avec lequel on peut travailler. En plus, je dirais, d'être performeuse, et Esther Ferrer a travaillé aussi avec John Cage et le groupe Jazz qui a fait tout un travail. Donc vous imaginez bien que, pour ceux qui me connaissent, que je ne peux être que sensible à son travail et au travers de Fluxus. Alors, John Cage... C'est un il faudrait une thèse, voire deux thèses, voire 10 thèses pour parler de son travail et de son rapport avec l'anarchie. Le groupe de mon groupe, qui est fédéré à la Fédération anarchiste, s'appelle John Cage. Et moi, j'évoquerai juste une pièce essentielle à mes yeux, qui s'intitule 4 minutes 33, où pendant 4 minutes 33, le public est invité à écouter le silence et aucun musicien joue. Alors, évidemment, s'il est seul au piano ou s'il y a un orchestre philharmonique qui interprète cette pièce, ça ne donne pas la même chose. Mais là, évidemment, il remet en cause tout, quoi, le pouvoir de l'artiste, et il invite, je veux dire, à appréhender, je veux dire, l'espace, à appréhender, je veux dire, les sons qui s'y dégagent, parce que même si on pense qu'il y a du silence, le silence n'est jamais absolu, et c'est là-dessus qu'il travaille. Et cette pièce a été faite pour David Thoreau. Alors. Donc, je vais aller sur la poésie visuelle. La poésie visuelle, donc, elle intervient, je veux dire, après, c'est sur les queues des avant-gardes qu'elle se crée. Mais en même temps, elle a une histoire. Elle remonte, elle commence à la première ramification. Pour moi, elle remonte aux incohérents. Ce matin, quand on parlait des impressionnistes, à côté de ce travail des impressionnistes, il y avait quand même des gens qui faisaient des remises en cause encore plus importantes que des impressionnistes. Il y avait des incohérents. Il y a d'abord ce tableau de l'écrivain Paul Billot et Alphonse Allais qui font en 1882 le premier monochrome de l'histoire de l'art, qui s'intitule « Combat de nègres dans une cave pendant la nuit ». Donc un noir absolu, donc ça passe très bien à la radio, il n'y a pas de souci. Et l'année suivante, lui, Alphonse Allais, réalise « Première communion de jeunes filles chloroquides par un temps de neige ». Chloroquide, c'est un enfant, je dirais, albinos. Donc c'est un monochrome là blanc. Donc évidemment, Malevitch qui arrive après, ou Klein qui arrive après avec le monochrome dans l'histoire de l'art, je dirais, ils sont dépassés. Je veux dire, nous, aujourd'hui, toutes les remises en cause esthétiques qu'on peut faire, et tous les petits amusements, et toutes nos petites discrétions qu'on peut faire, je veux dire, à côté de cela, je veux dire, nous sommes des fois un peu dépassés, un peu ridicules. Mais enfin, bon, ça n'empêche pas de travailler quand même, hein, et de rêver. Ensuite, il y a Stéphane Mallarmé qui lui, avec la publication de Un coup de dé jamais n'abolira le hasard, pose les bases, je dirais, de la première œuvre vraiment, vraiment avant-gardiste. C'est la première œuvre en vers libre. Et avec une transgression sur la typographie. Le terme avant-garde, bien sûr, n'existait pas à l'époque. Et c'est vraiment le fait que Mallarmé était critique d'art à l'époque lui a sûrement permis de réaliser ce travail. Guillaume Apollinaire, avec ses calligraphes, participe aussi à cette histoire de la poésie visuelle. Ensuite, nous arriverons à Dada, mais un petit paragraphe ou quelques lignes, c'est très compliqué, puisque je dirais que c'est là aussi une thèse. Il faudrait une thèse pour parler de Dada et du rapport de Dada à l'esthétique anarchiste. Je parlais que d'un artiste qui s'appelle Raoul Haussmann, qui s'est installé à Peyrat-le-Château, et qui, juste pour mémoire, parce qu'effectivement, on a parlé tout à l'heure d'Armand Gatti et des ramifications qu'il y avait là-haut sur le plateau de Mille Vaches. Haussmann est mort à Peyrat-le-Château, et à Limoges, il y a un fan club Raoul Haussmann qui s'amusait tous les ans à défiler, mais comme tous les membres de ce fan club, je dirais, il y en a beaucoup qui sont plus vieux que moi, donc maintenant ça commence un peu à se déliter. Alors, la poésie visuelle, vraiment comme esthétique, démarre, je dirais, dans les années 60, avec un poète suisse qui s'appelle Eugène Gominger, qui pose les bases de cette poésie. Et très vite, durant les avant-gardes, ça n'empare en faisant un travail circulaire, un travail horizontal, sans hiérarchie. C'est en ça que cette pratique est anarchiste. Il y a bien sûr pas de manifeste, puisque je dirais ça reste dans des termes qui sont posés comme ça avec des gens qui vivent dans des pays très différents. Les échanges se font sans valeur marchande, je dirais. Que dans les biennales que j'organise, je dirais tous les poètes visuels du monde qui m'envoient des choses, personne n'est rétribué. La seule obligation que j'ai, c'est de leur envoyer le catalogue de l'événement et que si eux font un événement, que j'y participe. C'est aussi un moyen, je dirais, pour des expérimentations quand on n'est pas dans cette dynamique de création affûtée pour grandir esthétiquement, pour apprendre des choses, je veux dire, parce qu'il s'y passe vraiment autour des digressions que les unes peuvent envoyer, on a de quoi réfléchir vraiment. Je dirais pourquoi défendre cette esthétique. Il y a un ouvrage très important dans le domaine qui s'appelle L'acte pour l'art d'Arnaud Labelle-Rejoux et qui montre que la disparition justement de l'art en tant qu'icône, et que ça rejoint le LHOQ de tout à l'heure de Marcel Duchamp, c'est-à-dire si on fait descendre la Joconde de son piédestal, on a un autre rapport à l'art. L'acte, c'est la performance, c'est toute la poésie sonore, c'est tout le travail que les uns et les autres ont fait autour de ces problématiques, toutes les revues qu'on peut faire. Mais ce travail peut être à la fois aussi très politique. Je parlais tout à l'heure de ce qui se passait sur le plateau de Mille Vaches. Il y a une fille, une plasticienne qui s'appelle Christine Desclés, qui a un travail de poésie visuelle, et qui habite Perrin-le-Château. C'est pour ça que je la cite, puisqu'elle est du même village que Raoul Haussmann. Et elle a fait, par exemple, un travail qu'on trouve dans le numéro 13 de ma revue, qui s'appelle Nuire, autour de ce qui s'est passé à Sainte-Soline. C'est-à-dire qu'elle a reproduit toutes les grenades qui ont été balancées à Sainte-Soline d'un point de vue esthétique, et elle a tiré 5015 sérigraphies de ce travail, qui est le nombre de grenades qui ont été balancées sur les manifestants. Tout ça vraiment, et tout ça numéroté. Voilà. Donc, je vous avais dit que je faisais vite. Hein, c'est bien sûr sur cendres-là qu'on travaille et qu'on essaye de réaliser des choses. La difficulté qu'on a, c'est que effectivement, la difficulté, ou plutôt, je dirais, la volonté qu'on a, en tout cas moi, c'est de travailler sans subvention. De refuser toute subvention pour des publications, de jouer avec cette dimension vraiment horizontale de travail, de mise à plat, et vraiment de jouer sur cette volonté, que dire, oui, on arrive au bout de la vie, et de montrer que l'acte militant peut rejoindre l'acte artistique. Je donnerai juste un petit exemple. Mercredi, c'est terminé chez moi, parce que j'ai aussi un petit espace d'exposition. On a été capable de réunir 102 artistes pour faire une exposition de soutien pour Art Éducation Gaza. Cette exposition qui a eu lieu chez moi a réussi à récolter 13 000 euros dans un premier temps. pour Art Éducation Gazam. Et elle va partir, de partir du 4 juillet, elle va partir à Céré, qui est la capitale du sud de la Catalogne. Du sud de la Catalogne Nord, pardon. Voilà, j'ai réussi à mettre tout en place. Voilà. Voilà. Et on espère que cette somme va encore monter. Donc, allier art, solidarité, c'est possible. Et j'essaye modestement de le démontrer. Je dirais, pour terminer, vive la sociale, vive l'anarchie.
Merci à toi, André. Sachant que tu as évoqué l'affiche qu'il y a derrière toi, donc les camarades qui l'ont faite pour Radio Libertaire il y a quelque temps, on l'a un peu reprise là. Oui. Et ils ont accepté de nous laisser le graphisme, non pas en mettant Radio Libertaire cette fois-ci, mais Fédération Anarchiste, S'Organiser, Lutter. C'est-à-dire que eux aussi, artistes, sont dans la continuité et acceptent que leur graphisme serve à plusieurs générations. Et d'ici quelques temps, pour ceux qui aiment coller des affiches, elle va être tirée en grand nombre. Et pour ceux qui aiment coller des autocollants, elle sera aussi tirée en grand nombre. Voilà. Une ou deux questions pour André. Voilà. Il y a une copine là qui veut la parole.
Le micro court.
Et puis une autre là.
Oui, bonjour. J'aurais quelque chose à dire. Donc en fait, parmi ces artistes, donc Duchamp c'était un conceptuel, Guy Debord c'était un lettriste, etc. En fait, c'est des artistes qui sont éminemment masculins. Et on a cru longtemps qu'au mythe de l'artiste femme empêchée. Bon, donc on sait qu'elles ont été occultées par l'histoire, en fait, tout simplement invisibilisées. Et donc, en fait, je pense que ce serait intéressant de faire des recherches sur les archives des femmes artistes qui ont pu être anarchistes. Et l'expérience nous donne qu'il y en a eu certaines. Et en fait, Marcel Duchamp, il a fait une œuvre qui s'appelle « La mariée mise à nu par ses célibataires », qui est intrinsèquement liée à la considération qu'il avait pour sa sœur. Et on parle beaucoup de Duchamp, on parle aussi beaucoup de tous les artistes en fait, qui évoluaient autour de Duchamp, les dadaïstes, etc. Mais on ne parle jamais de Suzanne Martin, qui était la sœur de Duchamp et qui était peintresse elle aussi. Voilà.
Merci de cette précision. On a une question ici, Nicolas. Sachant qu'il y a plein de portraits de femmes qu'a fait Amande, qui est derrière vous, là. Alors, c'est pas que des artistes, mais c'est aussi pour montrer que les femmes, dans l'histoire du monde social, artistique ou militant, sont largement présentes, quoi.
J'ai parlé quand même d'Esther Ferrer, et puis il y a quand même Orlan qui a fait l'origine de la guerre, un sexe d'homme qui est pour répondre à l'origine du monde de Courbet.
Attends, on parle pas en dehors du micro parce que c'est diffusé sur Radio Libertaire, donc ça.
Je suis désolé, mais Orlan, je pense que je l'intégrerai pas.
Je parle juste de cette œuvre-là.
Ouais, même la première, mais pour le reste. Moi, je voulais vous demander une chose, étant donné que vous pratiquez vous-même la poésie visuelle, est-ce qu'on peut en profiter ?
Elle veut une poésie.
De la poésie visuelle ou de la poésie ?
Poésie.
Non. Non, je ne suis pas venu là pour ça.
Ben, pourquoi pas, enfin, bon. Je pense.
Non, mais je suis...
On ne va pas lui forcer la main. Hein. Voilà. Y a-t-il d'autres... Tu veux préciser quelque chose, mais de manière très concise ? S'il te plaît, donc on se déplace.
Merci. Oui, j'ai fait une légère erreur, c'est Suzanne Duchamp. J'ai parlé de Suzanne Martin, qui est une artiste peintresse qui a été oubliée par l'histoire. J'ai pensé à elle. Bon, je ne sais pas si elle était anarchiste ou pas, mais en fait, elle faisait partie de l'École de Paris. Elle a été complètement invisibilisée, malgré son prix Fénéon. Et donc, en fait, c'est Suzanne Duchamp qui était la sœur de Marcel Duchamp. Voilà. Et Orlan, pour répondre à cette question, Orlan, c'est 50 ans après. Et c'est quand il y a une aura médiatique autour de l'art des femmes. Mais je parle de toutes ces femmes qu'on crée et qui sont complètement invisibilisées et qui sont reléguées dans les archives. Donc, en fait, si on veut une posture éthique, il faut les dénicher, en fait. Il faut les chercher.
Merci.
Ça va être super court par rapport à ce que tu dis actuellement sur l'invisibilité. Il y a une initiative sur Wikipédia là, qui s'appelle les 100 pages, je pense que vous devez connaître, et vraiment un groupe qui essaye de faire réémerger, de faire émerger la connaissance des femmes qui ont eu, qui ont fait des choses et qui sont pas présentes sur Wikipédia. On est certains nombreux ici à y participer. Et donc, je voulais vous dire, il faut vraiment les connaître et les croiser. Et si vous avez des possibilités de les aider à, de nous aider à écrire des articles sur cette thématique.
Voilà. On peut ajouter que Florence, qui parle beaucoup, mais moins que moi, fait une émission sur les femmes compositrices, qui elles aussi ont été oubliées dans la musique classique ou la musique contemporaine, et elle travaille à sortir toutes ces femmes qui ont produit de la musique sur Radio Libertaire pour faire un premier pas vers leur reconnaissance. Merci Florence.